L'émission jazz d'Allegre FM.
Tous les samedis à
17h. Sur Allegre FM avec Lionel Eskenazi.
Bonjour, bienvenue dans Jazzland sur Allegre FM. Alors, c'est une émission sur l'actualité du jazz. Aujourd'hui, j'ai deux invités, deux saxophonistes. Et on va parler évidemment de leur actualité discographique. Alors, tout d'abord. Bonjour Géraldine Laurent, bienvenue à Jazzland. Alors on
Merci.
Va parler d'un disque qui vient de sortir qui s'appelle sous l'intitulé The Hookup.
Oui, c'est le nom du groupe.
C'est le nom du groupe avec les frères Moutin et Noé Huchard, voilà. Et ça s'intitule Twenties et c'est sorti il y a très peu de temps, c'était fin février.
Oui, c'est ça.
Et j'annonce tout de suite un superbe concert qui a lieu mercredi 9 avril, dans 4 jours.
Voilà, c'est ça.
Au New Morning, voir The Hookup, voilà, c'est très important. Et puis, mon deuxième invité saxophoniste, c'est André Villéger. Bonjour André, bienvenue.
Bonjour.
Bienvenue à
bonjour
Jazz.
Bonjour Géraldine, bonjour Lionel.
Alors vous avez sorti un album, c'était fin novembre, donc il y a pas très longtemps, qui s'intitule Benny's Keys, sur le label Camille Productions.
Oui.
Voilà, et c'est un hommage au Benny grand Golson. Benny Golson que vous avez connu d'ailleurs. Hein,
avec... J'ai connu, mais j'ai parlé avec lui, j'ai pas joué, j'ai pas eu l'outrecuidance de vouloir me mesurer.
Oui, bah là, une battle, ça aurait été un peu curieux. Quand même.
Oui, non.
Mais votre copain Alain Jean-Marie a joué avec lui.
Énormément. Et grâce à lui, on a trouvé une pépite, un morceau que Benny avait composé qui s'appelle I'm Lost.
Alors c'est
Paroles et musique.
Alors c'est un des intérêts de cet album. Il y a 14 morceaux, dont ce I'm Lost qui est complètement inédit,
Alain
Jean-Marie avait les partitions.
Oui.
Et puis, il y a une composition de vous, cher André, qui s'appelle Benny's Changes. Voilà, vous lui avez rendu hommage à travers une composition.
Oui, bien sûr.
Pratiquement tous les titres importants qu'a composé Benny Golson, mais j'en ai trouvé deux qui manquent. Alors, peut-être on va en parler tout de suite, comme ça, après, on n'en parle plus. Il n'y a pas la Blues March et il n'y a pas Stablemates.
Alors, Blues March... En quartet, je trouve ça un peu...
Ouais.
C'est la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Donc, je trouve ça un peu ridicule. Et puis, Stablemates, j'étais pas content. On l'avait enregistré, mais j'étais pas content.
Ah, vous l'aviez enregistré, vous l'avez mis de côté. D'accord.
Voilà,
Bon,
de toute façon, je crois qu'on est au maximum de...
De toute façon, on peut pas tout mettre non plus.
Non,
mais le disque est très beau, je vous félicite. Et je voudrais féliciter Michel Stochtitch, qui fait un super boulot son label Camille Productions et qui sort...
C'est un passionné,
C'est un grand passionné et on le salue. Voilà. Alors, je précise une chose, avant qu'on écoute tout de suite un titre, je voudrais quand même préciser une chose très importante, c'est que Benny Golson nous a quittés le 21 septembre dernier, il avait 95 ans, mais que vous avez enregistré le disque au mois de juin, il était encore vivant. Donc vous ne faites pas un coup sur sa mort, quoi.
Non, je le précise. C'était pas le but,
puisqu'il était vivant et apparemment il était même en forme, enfin on n'avait pas de mauvaises nouvelles de sa santé particulière. Et donc vous lui avait rendu un hommage de son vivant, mais je le précise, c'est important.
Tout à fait. Je l'ai écrit d'ailleurs sur la pochette, j'ai écrit.
Alors on va démarrer tout de suite avec un morceau que j'aime beaucoup, mais que tout le monde aime, puisque c'est un des plus beaux morceaux de Benny Golson, c'est Along Came Betty.
Thank you.
Long Came Betty par André Villégié. Alors, je précise tout de même qu'il y a les quatre noms. Hein, vous n'êtes pas forcément le leader quand on regarde la pochette, André. On peut dire que vous êtes le leader puisque c'est un hommage à Benny Golson et que vous êtes le saxophoniste ténor.
Oui,
mais il y a les quatre noms à égalité. Moi, j'aime bien cette idée.
Ben, moi aussi. C'est pour ça que c'est comme
et
ça.
C'est un petit peu le principe du disque de Géraldine aussi, qu'un collectif. On met le collectif en avant.
Voilà.
Donc, ce n'est pas c'est mon
une musique,
disque, effectivement.
C'est une musique. C'est une musique qui doit se faire en groupe, quoi.
Alain Jean-Marie au piano, que vous connaissez, vous m'avez dit tout à l'heure, depuis 1973.
Ouais, exact.
52 ans d'amitié et d'amitié humaine et musicale.
Indéfectible. Oui, tout à fait. Oui.
Et alors, Thomas Bramery, alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce super contrebassiste?
Il était très jeune, j'ai connu dans les années 90, que je descendais donner des cours à Salon de Provence.
Ouais.
Et j'ai rencontré là-bas, il était déjà très doué. Il avait commencé par la guitare, donc ça forme les oreilles.
Mais il est incontournable, il est partout, Thomas.
Ah, maintenant, oui.
Ouais. J'imagine, vous avez joué avec lui.
Oui, bien
il
sûr.
Il fait partie de l'élite des contrebassistes français, oui, bien sûr.
Et alors, Antoine Paganotti, lui, il est partout. En ce moment, là, depuis 2-3 ans, il n'y a pas un groupe de jazz où il n'y a pas Antoine Paganotti.
Mais il sait tout faire.
Mais il s'est très très ouvert, son jeu. Il peut jouer du Benny Golson comme il peut jouer des choses beaucoup plus modernes. Il a un truc à lui qui est très puissant.
Il a un père qui est musicien.
Bernard Paganotti, qui était le bassiste de Magma, je m'en rappelle.
Donc il a une culture très large.
Sa sœur qui chante aussi, Limico Paganotti. Oui, c'est une famille de musiciens.
La particularité de ce groupe, c'est que tout le monde aime la musique de Benny Golson.
C'était la base quand même du projet.
Oui, mais des fois ça peut être comme ça. Ouais. Mais là, c'est sincère.
Mais comment ne pas aimer
sincère,
parce que Benny Golson, magnifique saxophoniste et magnifique compositeur, c'est-à-dire que ses compositions, j'imagine, Géraldine, que vous les avez jouées, Betty, c'est un standard incontournable.
Oui, c'est des compositions incroyables. Hein. C'est très à la fois compliqué et ce qu'on entend semble simple.
Il y a une fluidité. Ah,
chanter.
Alors que c'est quand même pas facile, forcément.
Oui, parce qu'il y a des, mélodies.
Voilà, oui, c'est parce que toute l'harmonie est associée à des mélodies qui coulent de source. Finalement.
Voilà, oui, c'est ça. C'est
avec
ça.
Une harmonie derrière qui n'est pas si évidente, mais qui coule de source aussi. Voilà, donc c'est des moments d'étude et de qui sont très, très agréables. Oui, et puis alors, les choruses de Golson...
Bah,
j'en ai repiqué quelques-uns quand même, parce que c'est quand même toujours...
Je précise que fascinant. Géraldine Laurent joue du saxophone alto, mais ça ne l'empêche pas d'apprécier les saxophonistes énormes, bien sûr.
Voir,
on n'est pas raciste. Hein.
Alors, vous, André, vous jouez aussi de l'alto, vous jouez de la clarinette, parce que vous avez joué dans des big bands, donc vous étiez amené à jouer un peu tous les instruments avant. Peut-être de la flûte aussi, je ne sais pas. Non
oui, mais je me bats avec cet instrument depuis 40 ans. Et j'ai pas encore... pour l'instant, c'est elle qui gagne par KO. Je n'ai pas encore réussi à la dominer, mais je ne désespère pas.
Mais vous préférez l'alto ou le ténor ? Je dis ça devant Géraldine Laurent. Allez, on y va.
pour moi, je suis un si bémol.
Ouais.
Je suis un si bémol. On est si bémol ou mi bémol. Hein.
Ouais.
Moi, j'ai eu des élèves au ténor, ça donnait pas grand-chose d'intéressant. Et puis à l'alto, ou au baryton, c'était formidable.
Ouais,
donc voilà, c'est une question de tessiture. Hein. Par exemple, Coltrane, j'ai entendu très vite dans l'album de Miles avec Cannonball.
Oui,
absolument. Ouais. J'ai entendu très vite que c'était un altiste et pas un ténor. C'est un altiste. Il joue aussi vite qu'un altiste et il joue toujours perché dans l'aigu.
Ouais, c'est vrai.
Alors, voilà.
Et il s'est mis au soprano d'ailleurs après, du coup.
Je ne vais pas monopoliser là.
Non, mais c'est intéressant que vous parliez de Coltrane parce que c'était un grand ami d'enfance de Benny Golson.
Absolument. Et il venait travailler chez Benny Golson et il y a des anecdotes, mais enfin, je ne veux pas non plus.
Alors, non, mais c'est intéressant de parler de cette pépinière de musiciens qui était à Philadelphie, parce que là, il y avait vraiment, c'est incroyable. Il y a d'ailleurs tous les musiciens du quintet de Miles Davis, du premier quintet, je veux dire, venaient de Philadelphie. Hein, Red Garland, Philly Joe Jones, comme son nom l'indique, évidemment John Coltrane, Paul Chambers, ils venaient tous de Philadelphie, et Benny Golson aussi. Il y avait. Qu'est-ce qui se passait dans cette ville? C'est incroyable quand même.
Il y avait un esprit. Un esprit de musique. Bon.
non, c'est étonnant quand même.
Oui. Et
Michael Tanner venait de Philadelphie puis j'en oublie plein.
C'est là aussi que Coltrane a découvert le ténor, parce qu'en fait, il jouait de l'alto au sein d'un petit orchestre.
Et le
ténor, il s'est embrouillé avec le saxophoniste ténor, qui s'appelait Louis George. Ah. Qui n'a pas voulu remonter sur scène et le chef d'orchestre a obligé Coltrane à prendre le ténor.
D'accord.
Et là, c'était une découverte. Il ne jouait plus du tout comme Johnny Hodges, qui était son dieu jusque-là.
Oui, d'accord. Et c'est vrai qu'il avait un truc avec Johnny Hodges. Vous avez dû essayer le ténor, Géraldine, forcément?
Oui, mais très très peu. Mais mais par contre, le truc, c'est que moi, j'ai écouté beaucoup plus de ténor que d'alto.
Ah ouais, voilà. J'étais une grande fan de Sonny Rollins, ça, je le sais. Sonny, c'est...
Donc, on me dit souvent que j'ai un son de ténor. Donc, mais effectivement, j'ai gardé l'alto. Alors, je dis souvent que ça correspondait un petit peu à ma tessiture de voix aussi, l'alto.
Normal.
Donc, finalement, je suis mi bémol, mais avec un son de ténor.
Voilà. Oui, c'est formidable. Ouais, Moi, je suis un ténor. Quand je joue l'alto, j'ai un son de ténor aussi.
Eh ben oui,
ce qui donne un son très particulier.
Non, mais c'est intéressant. Une chose pour les saxophonistes, moi je trouve que c'est toujours des discussions intéressantes, c'est qu'André fait partie de ces saxophonistes qui utilisent des hanches assez dures. Hein, je sais qu'avec l'âge, peut-être vous avez des hanches un petit peu moins dures maintenant.
Oui.
Mais quand même, il faut y aller sur ces hanches-là.
Oui.
Hein.
Oui, bah, ça dépend de l'ouverture du bec aussi,
bien sûr.
Mais bon,
mais vous êtes. Parce que c'est vrai que ce qu'on appelait les saxophonistes coltraniens, ils jouaient quand même avec des hanches beaucoup plus.
Ah oui, mais moi, je ne suis pas coltranien.
Voilà,
mais
c'est pour ça, c'est pour ça que je parle de ça.
Moi, c'est au ténor, c'était Coleman Hawkins.
Ouais.
et Sonny Rollins.
Bien sûr.
Et puis Dexter, bien sûr, Dexter.
Dexter, voilà, Don Byas, enfin...
Oui.
Lucky Thompson.
Oui, oui.
Non, mais il y a une école quand même du
tennis. Oui, oui, mais quand on joue sans sono, on commence sans sono. On est obligé de développer le son.
Ah oui, ah bah voilà. Non, mais ça, c'est une très très bonne réponse à la question.
C'est tout.
C'est une très bonne réponse. Alors, on est ce Along Came Betty, donc qui fait partie de cet album mythique qui s'appelle Moaning, hein, des Jazz Messengers d'Art Blakey, où tous les, Benny Golson a composé les deux tiers, hein, des morceaux de cet album. C'était à la fois à cette époque-là, on est en 1958, il est à la fois le saxophoniste ténor du groupe, le compositeur et le directeur musical, hein, du groupe. Mais alors, il ne reste qu'un an et demi chez les Jazz Messengers. C'est très très court en fait. Il fait un passage éclair. Il a tellement... On associe toujours les Jazz Messengers à Benny Golson.
Oui,
et quand
on
y réfléchit, il n'est resté qu'un an et demi dans le groupe. C'est dingue quand même. Que se pouvait dire là-dessus?
Ah, j'ai pas la réponse.
Mais c'est marrant de laisser une empreinte comme ça dans un groupe aussi forte, quoi.
C'est-à-dire qu'il est les compositions en... Les compositions.
Après, rester dans le répertoire du groupe.
Et puis,
hein,
spécialement en France, l'indicatif de pour ceux qui aiment le jazz.
Voilà, la blues marche.
Ça a contribué quand même à.
Et donc, c'était la grande époque du hard bop, hein, et des quintettes, parce que des quintettes avec saxophone et trompette, c'était la marque des Jazz Messengers. Mais vous avez voulu faire votre album en quartet.
Oui, j'ai fait tellement, j'ai tout...
Vous avez tout fait, je sais bien, André.
J'ai eu cette chance, parce que par curiosité, hein, quelques fois, je savais qu'il allait falloir que je travaille beaucoup. Donc, j'ai beaucoup travaillé, et c'est bien comme ça. C'est bien comme ça.
Alors on va écouter un deuxième extrait que j'aime beaucoup, une composition vraiment que j'adore, que Benny Golson avait composé pour le fameux Jazz Ted d'Art Farmer, parce qu'il a fait partie aussi de ce groupe très important. Ça s'intitule Killer Joe.
93.1 sur la bande FM et sur le site internet d'Aligre FM.
Alors, on vient d'entendre Killer Joe, composition de Benny Golson, tirée de l'album Benny's Keys, d'André Villéger, Alain Jean-Marie, Thomas Bramery et Antoine Paganotti, je cite les quatre musiciens, paru chez Camille Productions. Bah, ce thème Killer Joe, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce thème, André ?
Mais on a l'impression qu'il s'agit d'un boxeur, mais en fait, je crois que c'était pas ça du tout.
Mais je sais pas l'histoire, moi, moi, je croyais aussi qu'il y avait une histoire de boxe.
Mais c'est pas ça. Enfin, on a l'impression de deux boxeurs qui se tournent autour. Hein.
Ouais.
Ces deux accords là qui énervaient beaucoup l'épouse de Benny Golson.
Ah bon ?
Jusqu'au jour où elle a vu les royalties arriver.
Ah ben bah voilà. Et alors Benny Golson, je disais qu'il était très copain avec John Coltrane, mais il était très copain aussi avec Quincy Jones.
Oui.
Il y a une grande collaboration entre eux. Et Quincy Jones avait fait une superbe version de ce morceau.
Absolument.
Sur un de ses albums.
Absolument.
Il s'appelle Walking in Space et oui. Il y a une version mémorable. Oui. Et il adorait ce
J'ai eu l'honneur de l'interpréter sous sa houlette.
C'est vrai.
Ouais, le 4 juillet 2000.
Oh, magnifique.
C'était un concert au Théâtre des Champs-Élysées, un big band moitié français, moitié américain, sous la direction de Benny Golson.
Génial.
Et ça lui avait beaucoup plu. Bon, voilà. Donc, c'était devenu un copain.
Alors, justement, on va parler de quelque chose d'important. Parce qu'il a eu une drôle de carrière, notre ami Benny Golson, parce qu'au milieu des années 60, il arrête un petit peu de jazz, parce qu'il grâce à son ami Quincy Jones, qu'il fait rentrer à Hollywood, en fait, pour composer des musiques de films, musiques de séries américaines, de télévision, publicitaires. Et il gagne sa vie, il gagne d'ailleurs très bien sa vie, il faut le dire. Pendant une quinzaine d'années, il est à Hollywood et du coup, il arrête même de la pratique du saxophone.
Oui. Quand il est revenu dans la fin des années 70, j'ai vu arriver au Festival de Nice, de jazz de Nice, il avait perdu sa sonorité.
Il n'avait plus le même son.
Il avait perdu sa sonorité. C'était une grande déception, mais bon... Il avait retravaillé le saxophone quand même.
Oui,
il n'a pas arrêté, il n'a pas arrêté.
Non, bien sûr, mais c'est vrai que c'est des instruments exigeants. Hein. Vous jouez tous les jours, tout le temps, depuis toujours. Et on s'arrête, évidemment, il avait une sonorité beaucoup plus rugueuse, beaucoup moins fluide, hein, c'est ça.
Exactement, oui. J'ai essayé de lui extorquer, savoir. J'ai questionné trois fois, je lui ai demandé quel était son saxophoniste préféré. Il m'a dit tous. Il n'a jamais voulu avouer.
Bon, mais c'est pas grave.
Parce qu'il y avait un peu de bias, il y avait un peu de la folie des phrases de Hawkins.
Oui.
Échevelé, quoi. Mais. Voilà, donc. Mais c'était lui, quoi. Puis ses compositions magnifiques.
Alors, vous me disiez, Géraldine, hors antenne, que vous avez travaillé, relevé tous les chorus de Benny Golson et travaillé dessus.
Oui, pas tous, hélas. Oui. Mais j'ai pas mal écouté Benny Golson. Moi, j'ai toujours adoré, dès le départ. C'est-à-dire ça m'a parlé tout de suite. Et j'ai souvenir d'avoir repiqué, jusqu'à il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, quelques chorus de Benny Golson, où c'est jamais facile à réécrire, j'allais dire, parce qu'il y a quand même beaucoup d'envolées, justement, un peu à la Coleman Hawkins, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas juste cadrées dans des croches ou des...
Sonny Rollins, c'est pareil. Hein.
Alors, Rollins, évidemment, c'est pareil, mais il a un ambitus très intéressant, Golson. Il peut vraiment partir de... Moi, j'ai toujours adoré sa façon de gérer tout ce qui est arpège. Notamment.
Ouais.
Dans des graves à l'aigu, mais surtout d'avoir une espèce de chose très finalement verticale dans sa façon de gérer le jeu et l'improvisation, et puis tout à coup de rentrer dans quelque chose de plus chevronné où on sent l'urgence. Voilà.
C'est très
intéressant. Moi, je trouve ça toujours fabuleux.
Alors, je parlais des différents amis. Il avait plein d'amis. Je pense que c'était un homme délicieux parce que tout le monde l'adorait.
Oui, très gentil. Golson. Très gentil.
Et parmi ses nombreux amis, il avait solidifié une grande amitié avec le grand trompettiste Clifford Brown, qui malheureusement est mort très jeune d'un accident de voiture, et il lui avait rendu un vibrant hommage avec une composition qui s'appelle I Remember Clifford, qui est devenue un standard. Oui. Magnifique. Alors, vous l'avez repris, André. Oui, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce morceau?
Eh bien, je peux vous dire qu'il a avoué que c'était le morceau qui lui avait donné le plus de fil à retordre pour composer ce morceau. Tellement il était submergé par l'émotion. Quoi.
Et oui, bien sûr.
Il était tellement jeune, 25 ou 26 ans, je ne sais plus.
Oui, c'est ça, il est mort à 26 ans.
Ouais, 26 ans, c'est tellement dramatique, quoi.
Eh bien, on va écouter la version d'André Villégé de « I Remember Clifford ».
Thank you.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
C'était ce sublime I Remember Clifford par André Villégier, Alain Jean-Marie, Thomas Bramery et Antoine Paganotti, tiré de ce très bel album Benny's Keys. Alors on va passer maintenant à Géraldine Laurent, donc qui n'est pas leader, hein, parce qu'il s'agit d'un groupe, d'un collectif, qui s'appelle The Hook Up. Alors, The Hook Up, hein, parlons-en, voilà, parce que ça veut dire, Hook Up, ça veut dire se brancher, se connecter.
Oui, c'est ça, oui, ça, oui, hein, oui, 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 oui,
c'est
voilà.
Un hameçon, en fait, ce hook.
Oui, c'est ça, c'est une façon, enfin, il y a plein de...
Alors, il y a des doubles sens sexuels, attention.
Oui,
hein.
Je sais.
Ah, mais oui, parce que quand on se branche à un homme et une femme, deux hommes, deux femmes, enfin, peu importe d'ailleurs, quand on se branche d'une façon amoureuse, voire même sexuelle, on peut dire hook up, hein.
Oui, mais bon, ce n'est pas forcément moi qui ai choisi le nom du groupe, hein, je tiens à préciser.
Non, d'ailleurs, je crois qu'il y a même les prostituées aux États-Unis, les appellent des hookers.
Eh ben voilà, écoutez, non, moi dire, je vais vous
on
laisser.
On peut dire ce mot-là. Non, mais c'est the hookers, pas hook up. Bon, bref. Non, mais voilà. C'était bon, en anglais,
non, mais moi,
je
vais me satisfaire de la version,
c'est la langue anglaise.
La version un peu plus poétique.
Se brancher, se connecter.
De la connexion, de la rencontre, voilà. Tout à fait
oui,
cordiale et sympathique.
Ben ça colle avec le jazz, surtout.
Bah oui,
ça
oui,
colle avec le jazz, parce que là, on a quand même quatre musiciens superbes. Alors bon, Géraldine Laurent, donc au saxophone alto. Les fameux frères Motin, ces frères jumeaux inséparables depuis tellement longtemps. François et Louis, donc... contrebasse et batterie. Je ne sais pas si André, vous avez eu l'occasion de jouer avec eux.
Non.
Non, jamais.
Non, ça, c'est jamais trouvé.
Parce qu'ils sont là depuis longtemps quand même. Hein.
Oui, moi aussi. Oui. Hein.
J'imagine qu'avant ce projet, Géraldine, vous avez joué avec eux.
Oui, bien sûr. Oui, ouais. On a eu.
Vous avez fait des sessions.
Oui, des sessions. Oui. On s'est croisés. On s'est régulièrement invités sur des choses comme ça, un peu des one shots.
Cette idée de groupe, ça s'est mijoté depuis longtemps comme ça.
Bah oui, parce que comme on se croisait régulièrement, et puis moi j'ai invité Louis, François de temps en temps. François et Louis moi invités aussi de temps en temps. J'ai aussi joué plus souvent, peut-être avec Louis dans d'autres formations. Donc avec les frères, oui, effectivement, c'était comme ça un peu latent, quoi.
Il y a une connexion.
Hein. Ben voilà, il y a une connexion. C'était la première connexion.
Et alors, il y a le petit jeune qui est Noé Huchard, parce qu'il a 25 ans, si je ne dis pas de bêtises.
Je crois.
Peut-être 26, peut-être.
En tout cas, il a l'âge où on peut encore le dire, son âge.
Donc, fils de Stéphane Huchard, grand batteur du jazz français,
bien
faut
sûr,
le dire.
Ouais.
Non, lui aussi, il est né, il a baigné dans la marmite. Là.
Ah oui, ça c'est sûr. Magnifique pianiste.
Quel pianiste incroyable.
Mais
pour son âge, il a une culture jazzistique de tout l'éventail du jazz.
Oui, il est très très ouvert sur plein de choses.
Ouais,
et puis il a une culture de toute la tradition du jazz.
Bah, ouais,
moi, je me souviens, j'ai pas joué avec lui, mais il avait fait une première partie. Enfin, on était sur un coplateau, il avait 17 ans et c'était déjà assez redoutable. Et il a cette notion de l'acoustique, cette notion de l'histoire du jazz aussi, avec tout l'amour qu'il y a pour cette histoire du jazz, et ça s'entend dans son jeu, et il se l'approprie et fait des choses très personnelles, et donc c'est très agréable.
C'est important que vous parliez de ça, parce qu'il s'agit de ça dans ce disque, puisque le disque s'appelle Twenties, et voilà. En fait il est question de faire un saut en arrière d'il y a 100 ans, c'est-à-dire les années 1920, et qui était un vivier de jazz extraordinaire, puisque là, le jazz, dans les années 20, il prend son ampleur avec Duke Ellington, avec Louis Armstrong, puis avec tous les standards qui ont été écrits ces années-là, puisque c'est la grande époque des comédies musicales de Broadway, et tous les grands standards, enfin, il y a une grande partie des standards qui ont été écrits dans ces années-là, et c'est ça que vous avez voulu rendre hommage à cette époque, 100 ans après, mais il n'y a pas de nostalgie, il n'y a pas de côté rétro, parce que c'est du jazz moderne qui est ancré dans la réalité d'aujourd'hui, du jazz d'aujourd'hui, c'est ça qui est très intéressant dans votre projet.
Oui, c'est-à-dire que oui, moi j'avais un peu proposé l'idée de, c'est une idée que j'avais déjà depuis quelques temps, de faire un retour des 100 ans, quoi, de 1920-2020, mais il y avait aussi l'idée quand même d'un retour philosophique, politique, économique, social, enfin, c'est-à-dire faire un lien entre les années 20 et les années 20, qui, hélas, sur certaines choses, n'ont pas beaucoup changé, j'allais dire.
Je crois que la crise de 29 va revenir bientôt, là. J'ai bien peur.
Il y avait des choses qui se mettaient en place, qui de la modernité ou de choses, en tout cas, qui appelaient au changement, mais qui ont... qui ont été vite rattrapés par des années plus tard, des choses absolument terribles. Donc voilà, il y avait ce contexte-là aussi, oui. Aneva, une période où le jazz est une musique de combat aussi.
Bien sûr, aujourd'hui,
encore, mais je pense que ça l'était vraiment fondamentalement à l'époque, de divertissement, mais aussi, surtout, de combat existentiel et d'affirmation
d'identité
noirs,
oui.
de tout un tas de choses absolument essentielles quand même à l'existence de l'être humain. Et donc, évidemment, un lieu musical de grande émulation entre les comédies musicales, le New Orleans, enfin toutes ces choses, et puis tous les grands compositeurs et grands musiciens qui étaient déjà là à l'époque, mais qui commençaient aussi plus ou
bien
moins
sûr,
et
ouais.
puis qui sont devenus
on va en écouter tout de suite un exemple si vous voulez bien, Géraldine, avec T42. Je crois que c'est vous qui avez fait l'arrangement.
Un petit arrangement.
Alors est-ce qu'on peut parler d'arrangement, de dérangement? Je laisse les auditeurs je laisse les auditeurs choisir. T42. Thank you.
Allègre FM avec Lionel Eskenazi.
Tea for Two par The Hookup. Écoutez, chère Géraldine Laurent, bravo pour cet arrangement dérangé. Oh, je ne sais pas, ce tempo très rapide en tous les cas. Vous aviez envie, envie de ça, de le booster un peu ce Tea for Two.
Oui. L'idée c'était de le dédoubler un peu, puis que ça, voilà, c'est un Tea for Two, voilà, tout simplement.
Mais qu'est-ce que je voulais dire, c'est intéressant puisque là on est, c'est vrai qu'on peut les jouer de tout. Plein de manières, les standards, ils sont là, mais c'est un... bon, Martial Solal, c'est un grand spécialiste pour les oui. chamboulés et tout ça, puis il y en a plein d'autres qui ont fait ça. Mais du coup, c'est vrai que rendre hommage aux années 20, en 2020, en se disant, bah voilà, on va aussi rendre hommage à cet esprit de liberté qu'il y avait à l'époque, quoi, et cette idée de créativité aussi. Et quelque part, là, on, c'est le plus bel hommage qu'on puisse faire avec ce genre de version. Enfin,
j'espère, surtout qu'on est à la hauteur de tout ce répertoire et de cette aussi, magnifique musique de ces années-là. Mais effectivement, c'était pour rendre hommage à tout ce qui est le swing, la danse, auquel je suis très attachée.
Bien sûr.
Les thèmes, les déroulements d'accords aussi, voilà, toutes les harmonies, et puis avoir aussi un équilibre entre les thèmes majeurs et les thèmes mineurs, parce que finalement, c'est pas si simple d'avoir des thèmes majeurs. Je trouve que la musique, c'est un peu minorisée, entre guillemets, finalement.
Ah oui, c'est intéressant.
Et
ça,
dans toute l'histoire de la musique, il y a toujours cette espèce d'équilibre entre majeur et mineur, pour plein de raisons.
C'est les années 60 qui ont amené le mineur. Et
alors, effectivement, la mode, peut-être le côté
moda. Très prégnante.
Oui, c'est vrai, effectivement.
Oui.
Mais c'est vrai que voilà, c'était un point important en tout cas d'essayer d'équilibrer.
Est-ce que ça a été compliqué d'établir le répertoire, parce qu'il y en a des morceaux quand même. Il y a eu des prises de tête, des prises de choux.
Non, pas vraiment. Parce que c'est un co-leading justement, tout le monde était content. Enfin, d'abord, on a tous replongé un peu dans. D'abord, on avait ce cahier des charges des années 20 déjà.
Oui.
Ce qui n'est pas si évident parce qu'il y a beaucoup de morceaux composés dans les années 20, mais il y en a aussi beaucoup dans les années 30.
Donc, bien sûr.
Si on voulait rester sur notre idée des années 20. Il y en a un, je crois, qui est de 1918 quand même, me semble-t-il.
Oh, c'est
After
You've
Gone. Ah, quand même, je précise.
Non, mais c'est bien de le préciser.
Il était un peu en avance, c'est pour ça.
Mais il n'y a pas tellement de morceaux d'Ellington ou d'Armstrong qui étaient quand même leurs grandes époques.
Moi j'ai regardé quand même Ellington, il était très jeune. Hein, donc,
Ellington,
il y a beaucoup à partir des années 30.
C'est
André,
compo.
Toi, tu connais bien.
Il commence à enregistrer en 1924, mais c'est vrai que c'est là où il est au top.
Il y en a un, moi, que j'ai réarrangé, le East St. Louis Blues, effectivement date de cette période. Mais
non, mais Armstrong était plus important dans ces
années-là.
Oui,
il y avait d'autres musiciens. Après, il y avait, Gershwin était là.
Bien sûr.
Début des comédies musicales aussi. Mais oui, c'est un ces années-là,
j'ai choisi qu'on écoute un morceau que j'adore, vraiment une mélodie sublime, c'est Softly As in a Morning Sunrise.
Oui.
Qu'est-ce que vous pouvez dire sur
ce
morceau?
C'est un très bel arrangement de Louis Moutin.
C'est Louis Moutin qui a fait l'arrangement.
Qui nous a proposé ce morceau et qui a fait l'arrangement. Et effectivement, c'est un super morceau. Alors, assez connu finalement, de tout le monde, mais surtout dans les bœufs. Voilà.
Oui, c'est un morceau qui est tout souvent repris.
Et quand même le morceau très souvent repris, donc c'est jamais évident justement de le reprendre et de faire quelque chose.
Ouais,
et là, Louis
le saucisson.
Voilà, c'est ça. Louis a proposé quelque chose de très audacieux et très intéressant.
Alors c'est parti. Softly as in a morning sunrise. Thank you. Softly as in a morning sunrise, The Hookup, tiré de l'album 20s, Géraldine Laurent. Oui. Alors, vous êtes très active. Alors, bon, on va pas parler de tout ce que vous faites, parce qu'on n'a pas beaucoup le temps. Mais il y a un projet qui vous tient à cœur, qui est Looking for Mingus.
Oui, bien
qui
sûr.
Qui tourne. Hein. Vous allez être à Coutances bientôt.
Oui, on joue à Coutances. Alors, ça tourne, oui. On n'a pas encore sorti de disque.
Oui, mais c'est bien de le roder en live.
Oui, c'est un peu à l'ancienne aussi.
Voilà, avec Manu Kodjia, voilà. Christophe Marguet et Jean-Charles Richard.
Donc, il n'y a pas de basse, hein, évidemment, voilà. Je tiens à préciser.
Et rendre hommage à Mingus sans contrebasse, c'est un vrai challenge. Et il y a ce duo avec Laurent de Wilde.
Oui,
alors
aussi,
là, c'est pareil, il
n'y
a pas de disque, mais vous tournez, vous avez fait une tournée à Tourcoing, là.
Oui,
dans le Nord,
oui, très, très jolie.
Juste
tournée.
En duo, au piano sax.
Je remercie encore Yann Stuck qui nous a fait un très beau travail sur cette tournée.
C'est une très belle idée.
Et avec Laurent, on se connaît depuis longtemps, donc c'est toujours un vrai régal et un vrai plaisir.
Alors, les concerts, 9 avril au New Morning.
Voilà, avec The Hookup.
27 juin au New York Jazz Festival, là, si vous êtes à domicile.
Voilà.
Hein, donc c'est très
précieux.
Ça,
c'est pour le Hookup, effectivement.
Ouais, The Hookup.
Ouais. On joue à Chantilly
Alors, André Villégi, il y a un concert au New Morning de Benny's Keys.
Oui, le 17 juin.
17 juin au New Morning, mardi. Pour voir André Villégi. On va se terminer avec un dernier morceau. Je crois que c'est un arrangement de François Moutin, Everybody's Love My Baby. Alors là, c'est très coltranien pour le coup. Hein.
Oui, c'est ça, oui.
Everybody's Love My Baby du groupe The Hookup. Je remercie Géraldine Laurent et André Villéger pour leur présence. Merci, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et puis, je remercie évidemment Armand à la technique et Madeleine et Salomon pour le générique et les jingles. Je vous retrouverai ici même à ce micro dans 15 jours. Rendez-vous avec Jean-Marc Gélin la semaine prochaine, qui aura comme invité Yaron Herman. Voilà, à très bientôt. Au revoir.